Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, dans le Kinshasa.
Non, puisque je vous ai dit que les années 2000-2001-2002, avec ce phénomène de Mbatsu, nous avons mené des études plus particulièrement dans les communes de Ndjulu et de Kumbaseke, où nous avons circulé presque partout à la recherche de ce marché où on vendait le Mbatsu. Nous n'avons trouvé aucun marchand, ça n'existe pas. Nous avons mené des recherches avec les étudiants, nous avons soufflé partout, nulle part. On va vous dire qu'en fait, ici ou là, vous pouvez acheter le Mbatsu. En fait, des propos sans fondement, et voilà, il n'a rien d'objectif en fait dans cette situation. De Bourulou Mbatsu qu'on peut acheter.
Alors, docteur Kibati, comment c'était la transmission de la maladie? Est-ce qu'il y a des insectes qui peuvent vous piquer et après la l'ulcère apparaît?
Oui, l'ulcère de Bourulou dans la province du Bas-Congo, c'est en fait une maladie qui se transmet dans un environnement infecté par le Mycobacterium ulcérans. Ce sont généralement des insectes aquatiques qui vivent dans des marais. D'après le Congo, on appelle ça le mayanga, le yanga. En fait, ce sont des eaux stagnantes où généralement les enfants vont pour se baigner, pour jouer, voilà. C'est dans des cours d'eau à débit lent où généralement la population se contamine. Et les mamans se contaminent généralement sur la province de Bakongo, généralement lors des travaux champêtres. En fait, vous savez que le manioc, il faut le déposer dans des eaux stagnantes pour que ça puisse, voilà. Et pendant tous ces travaux champêtres, généralement, la population s'est contaminée.
Des questions, des préoccupations sur cette maladie, le Mbatsu, appelez-nous au 081-890-63-94.
Radio Okapi, la radio de la paix en route vers les élections. Retrouvez tous les jours des sons à la famille et les élections sont faciles à comprendre. Une occasion pour vous d'adresser vos questions à la Commission électorale nationale indépendante par SMS au 081 006 57 10 081 006 57 10 ou par mail à elections@radiookapi.net.
La maladie de Mbatsu, quelles sont les causes et les traitements appropriés? Mbavé Kisambika, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur. Je vous dis personnellement, bonjour à mon invité, docteur, madame, les noms, mes chers
professeurs. Docteur Kibati, on vous écoute.
La FIA et tous les autres de la radio Kapi.
Oui, quelle est votre question?
J'ai une question, je suis un membre de la famille qui se trouve à la maison de la. Il nous a informé qu'il aurait connu peut-être une sorte de maladie comme ça par le médecin que le docteur vient de numérer là-dessus. Je suis impatient si ça doit être cette maladie-là. Maintenant, à ce niveau-là, je voudrais savoir si aussi vous peut-être demander au docteur comment est-ce qu'on peut écarter ou soit protéger la personne qui est atteinte de cette maladie, puisque peut-être là c'est à mon niveau c'est peut-être que je suis en train de voir ce doit être cette maladie, c'est pas par les consignes soit cette facture de maladie que on a éliminé là c'est par les docteurs. Non, justement ça va, quels sont les encadrements sur les interventions préventives que nous pouvons accorder ou soit appliquer pour que la personne qui est déjà atteinte de cette maladie soit vraiment garder ou soit protéger de cette maladie. Voilà quelques questions spécifiques et je voudrais maintenant poser à notre invité. S'il a d'autres moyens, ils peuvent, plutôt les docteurs peuvent déjà nous donner, comme ça nous pouvons appliquer et pour que la personne soit vraiment personne soit protégée de cette maladie. Merci.
Merci. Merci. Jérémy Mido de Bandundouville. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Bon, je ne sais pas, j'ai seulement des préoccupations à poser à notre invité. Bon, je ne sais pas, les mystérieux là, des maladies qu'on appelle les mbashu. Donc, je peux dire, c'est comme le bouton sort à quelqu'un. Donc, on peut dire, cette personne est, par exemple, à la carence de la vitamine C. Est-ce que les mbashu là, c'est aussi la carence de la vitamine C? Bon, deuxième préoccupation, je ne sais pas si l'invité peut nous donner quelques antidotes ou bien quelques médicaments pour traiter ces mbashu.
Merci. Docteur Kibati.
Oui.
Vous avez la parole.
Merci beaucoup. En ce qui concerne la première question, prévention vis-à-vis du cerf de Bourouli, et que faire quand un patient est atteint? La première chose, c'est que le patient doit se présenter à l'hôpital. Il doit voir un médecin qui va poser le diagnostic. Et je vous rappelle qu'en fait, je suis également le directeur national adjoint du programme national de lutte contre le cancer de Bourouli. Et en même temps, professeur de chirurgie plastique à l'Université de chirurgie plastique. En fait, mon unité de chirurgie plastique, qui est une université de Tata, se spécialise aussi dans les traitements de MBASHU. Donc en fait, le patient se présente dans nos cabinets, nous posons le diagnostic, et nous faisons des examens gratuitement à l'INRB, en l'Institut de recherche biomédicale à Kinshasa. Vous pouvez faire gratuitement des examens pour confirmer l'ulcère de Bourouli. Maintenant, après cette confirmation au laboratoire à l'INRB, nous allons vous prescrire des antibiotiques. Ce sont généralement des antimycobactériens, dans la même famille que le médicament qu'on a donné pour traiter la tuberculose. C'est la rifampicine et la streptomycine. Et jusqu'à présent, le traitement est gratuit. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le traitement du cerf de Bourouli est gratuit. Donc, dans ce cas-là, si ça confirme que c'est réellement du cerf de Bourouli, après les analyses à l'instance de recherche biomédicale, les analyses qui sont gratuites, dans ce cas-là, on peut se battre à vous disponibiliser gratuitement le traitement spécifique, j'insiste, le traitement spécifique de l'ulcère de Bourouli, qui est en fait un traitement à base des antimycobactériens, plus particulièrement les rifampicine et streptomycine.
Voilà, donc même pour celui qui est à Kananga, qui est à Bandundouville.
Pour celui qui est à Kananga, je me souviens qu'il y a une maladie qui s'appelle, je crois, Teta, si la prononciation est bonne, c'est beaucoup plus à Boujima, et qui sont en fait dans la même famille des ulcérations, des pires chroniques, des lymphadomes, dont l'origine semblerait être mystérieuse. Ce qu'on peut faire sur place, c'est tout simplement de faire un examen à la recherche de barres de bacilles alcalo-acido-résistants. On peut se présenter dans le centre de santé qui s'occupe aussi du diagnostic de la tuberculose. On va faire des prélèvements au niveau de la plaie à la recherche de bacilles alcalo-acido-résistants. Si c'est positif, ils peuvent contacter le responsable du programme lèpre et tuberculose qui peuvent nous contacter. Et dans ce cas-là, on pourrait, à la mesure du possible, de disponibiliser un traitement spécifique. Et je réponds en disant qu'en fait, tout ce qui se dit MBASHU n'est pas nécessairement le cerf de
Bourouli.
Tout l'intérêt est de consulter d'abord un médecin qui va poser un diagnostic clinique. Ça peut être une ostéite, donc une infection de l'os. Ça peut être un néphrodème, des infections de vaisseaux lymphatiques. Ça peut être tout. Ça peut être même de la gale, des dermatoses, des bubons simples, comme dit le monsieur là, des abcès qu'il faut inciser et drainer. Le plus important, c'est d'abord de consulter un médecin qui pose un diagnostic. Et à partir de ce diagnostic-là, on peut faire des examens paracliniques de confirmation. Et plus tard, vous donner un traitement spécifique.
Bien. Chef Limanga nous appelle de Mbandaka. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, Chef Limanga, on vous écoute.
Je suis avec beaucoup d'impression, monsieur le docteur.
Oui.
Mais je suis un peu surpris et mis quand tu me dis que cette maladie n'a rien à voir avec la spiritualité. Laissez-moi vous dire, monsieur, qu'à Mbandaka, précisément là où nous sommes, c'est une maladie qui est très courante. Et elle est plus attribuée à certaines personnes que nous appelons ici communément les Bachas. Ce sont des gens
qui vendent ces histoires. Ces histoires de mythes ne sont pas des contes, mais sont des réalités que je suis en train de vous relater. Il suffit que vous ayez un problème avec une particularité. Et d'office, on vous achète cette maladie, on vous la jette. Automatiquement, ça va commencer par des démangeaisons. Il suffit à ce que vous soignez ne fût qu'un de médicaments. Et vous êtes parti comme ça, vous êtes emporté par la maladie.
Oui, simplement, vous comprenez. Oui. Oui, vous dites que les batois, ils vendent ça au marché?
Ils ne vendent pas au marché, mais ils ont l'air super reconnus. Il suffit que vous ayez un problème, il suffit qu'on vous vole une chose, il suffit qu'on vous en sorte, vous allez vous les consulter. Et on les fait des fois d'une manière discrète, des fois d'une manière publique, et ça fait une personne directement sans aucune transition, sans quoi. Donc c'est une évidence vraiment. Mais je suis très surpris d'écouter les docteurs en train de nier, en train de dire qu'il n'y a pas une relation avec la spiritualité. Vraiment, je ne sais pas. Si ce que nous comptons comme réalité, ça peut conforme à ce que le docteur vient de dire là-dessus.
Merci, Tupimanga. Léon Souza et Takananga, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Léon.
Oui, moi, mon intervention était de savoir, après vos études menées, quelle est la tranche d'âge la plus touchée de cette maladie, et après vos comparaisons de deux traitements, quel est le traitement le plus efficace pour répondre aux besoins de nos malades.
Merci. Docteur Kibati.
Oui, alors, question de savoir, il est tout à fait difficile de donner une preuve d'une atteinte d'origine surnaturelle. Même, on ne saura jamais dire que, voilà, cette maladie que souffre une personne est due à une attaque de sorcier ou pas. La preuve, c'est question tout simplement des conceptions, ça n'a rien à voir. Nous nous donnons une cause naturelle, une cause scientifique, une cause qu'on peut facilement vérifier. Il est difficile de vérifier que voilà, cette maladie est due aux attaques ou bien à la sorcellerie. Et je rappelle au monsieur qu'en fait, ce problème n'est pas tellement congolais. Nous avons mené des études dans plusieurs provinces du pays, et même en Afrique, nous étions au Bénin, au Ghana, Côte d'Ivoire, même dans ce pays-là aussi. Beaucoup de maladies chroniques dont la guérison est difficile, les gens semblent rattacher ça aux attaques des sorciers à la sorcellerie. À ce qui concerne la deuxième question, pour savoir quelle
la tranche d'âge la plus touchée.
Oui, généralement on dit que l'adulte paraît être la personne la plus atteinte dans la mesure où il y a plusieurs facteurs qui interviennent. On cite aussi dans le milieu ruraux les enfants, puisque généralement les enfants jouent dans des eaux stagnantes, beaucoup de comportements à risque dans des eaux stagnantes, de petits micro-traumatismes au niveau de la jambe, de petites plaies, et généralement ces plaies se surinfectent, voilà, donnant du cerf de brûlé. Donc, il n'y a pas un âge spécifique, tout le monde peut être atteint du cerf de brûlé, mais certains comportements à risque constitueraient en fait un facteur important qui peut favoriser l'apparition du cerf de brûlé.
Alors, quel est ce comportement à risque?
Oui, le comportement à risque, c'est par exemple, je vous rappelle, dans la province du Bakongo, à Kinshasa, c'est que vers Somololo, il n'y a pas d'eau potable. Les gens vont généralement dans les nappes stagnantes. Là, généralement, ils sont contaminés par du cerf de brûlé. Le manque d'hygiène serait un des facteurs le plus favorisant. Une étude menée au Bénin montre que, après avoir amélioré les conditions sociales de la population, on a vu l'incidence et la prévalence de la maladie diminuer sensiblement. Toutes ces maladies, ce sont les maladies liées à la pauvreté, et voilà ce qui constitue un des facteurs qui risque le plus important. Donc, améliorer les conditions de vie de la population, améliorer les structures de prise en charge de maladies dans le stade précoce constituerait en fait le moyen plus important pour lutter contre cette maladie.
Jackson Kadima nous appelle de Kananga, bonjour.
Bonjour, bonjour jeudi, bonjour Radio Kati.
Alors nous parlons aujourd'hui de la maladie Mbastou. Quelle est votre question?
Ça va? J'ai une question, mais avant tout un apport à ce que notre invité a répondu sur place.
Oui.
Nous sommes en Afrique. Nous ne devons pas oublier nos origines africaines et nos réalités qui sont vraiment liées à notre culture africaine. Quelle que soit la science, quelle que soit tout ce qui peut s'en suivre. Moi, personnellement, j'ai vécu une expérience telle qu'il y a eu un problème d'un homme qui y aurait, bon, flirté avec une femme d'autrui. Alors, on lui a jeté ces choses, hein, ces genres de brûlures-là. Alors, il est allé un peu partout pour se faire soigner. Et même lorsque les médecins naturels, les médecins modernes ont essayé de guérir la plaie, ça ne guérissait pas. Mais une fois qu'il a été convaincu, une fois qu'il avait vraiment confessé qu'il connaissait l'erreur, et on a cherché un traduit praticien qui n'est pas de là avec les méthodes modernes telles qu'invoquées par notre intervenant,
oui. Et
le monsieur a été guéri. Donc je vais dire ceci, malgré la médecine moderne, malgré la modernisation, malgré tout ce qu'il y a comme technologie de pointe et autre chose,
oui. Nous
ne pouvons jamais oublier nos origines. Et ça, c'est une expérience propre que moi j'ai vécue. Maintenant, ma petite question que je pose à notre invité est celle-ci. Est-ce qu'il y a seulement à Bas-Congo, à Kinshasa, où cette maladie a pour origine les eaux stagnantes, bon, les travaux sans tête, et non ici? C'est mon problème.
Et non, c'est vous à Kananga. Merci, Jackson. Ngala Mouloumé est à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, je vous dis la dernière question.
On vous écoute.
Oui, je voulais dire à madame que souvent les
gens
ont l'habitude de nuire la sorcellerie. Vous savez, moi j'ai assisté de la plupart des gens qui souffrent cette maladie. Moi j'ai dit que c'est une maladie démoniaque parce que je n'ai jamais vu aucun médecin peut-être qui a guéri ça. Souvent c'est un changement vraiment dès qu'il se revient directement, la guérison se présente. Et il y a aussi la prière que madame ne doit plus pas vraiment ignorer, parce que vous savez que nous les Africains, notre héritage c'est la sorcellerie. On ne peut pas ignorer ça.
Merci Ngala Mouloumé pour votre intervention. Alors docteur Kibati, il n'est pas une dame, hein, c'est un monsieur. Docteur Kibati, vous avez suivi toutes ces interventions, qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs?
Oui, il y a deux choses. Généralement, il y a ce qu'on appelle la sous-information et la méconnaissance de la maladie. Je rappelle au premier que même la tuberculose, il y a plusieurs années, était considérée comme étant une maladie de sorciers ou des attaques. La plupart des maladies qu'ils trouvent maintenant, même le paludisme, avant les sorciers, les attaques, tout ça. Ce n'est pas un fait récent, mais c'est un aspect lié aux phénomènes sociaux qui sont globaux et totaux. Ce que la méconnaissance de la maladie et la sous-information constituent en fait les lits pour la suspicion, les croyances et tout ça. Je ne dis pas que les croyances n'existent pas, mais je vous dis qu'en fait, il est pratiquement difficile de donner une preuve scientifique que voilà, telle maladie est due à une attaque ou bien des sorciers. Mais nous, au moins, nous avons des preuves scientifiques. Nous, les soignants de cette maladie, je rappelle que, par exemple, dans la ville de Kinshasa, dans plusieurs centres de santé ou hôpitaux, en ce qui concerne les plaies, ils utilisent une solution qui s'appelle solution Kibagi, qui porte curieusement mon nom, et avec cette solution, qui est en fait sous forme d'antiseptique, les plaies finissent facilement à être guéries ou cicatrisées. Et si vous mettez le malade sous un traitement spécifique, qui sera en plus une streptomycine, après une consommation au laboratoire et à l'UNRB, généralement, nous avons des très bons.
Alors, pour ceux-là qui sont tentés d'aller voir directement les traduits praticiens, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Oui, les traduits praticiens, c'est pas pour nous, c'est un problème de diagnostic. Lorsque ces traduits praticiens traitent, vous savez qu'une plaie simple, même sans traitement, si la plaie est propre, ça finit toujours par se cicatriser. Je vous rappelle que nos ancêtres n'avaient pas de centres de santé, ils n'avaient pas d'hôpitaux, mais les plaies finissaient toujours par se cicatriser.
Oui.
Je vous rappelle que le gorille même, dans la forêt équatoriale, se blesse, ce gorille-là, il finit toujours par se cicatriser. Donc la guérison d'une plaie est surtout un phénomène naturel. Donc les gens se posent quel est le diagnostic du départ de ces lésions, notre traduit thérapeute. Puisqu'en fait, la guérison d'une plaie, la guérison d'un ulcère, c'est un phénomène naturel. Donc, généralement, on met les amalgames, on peut prendre une plaie simple, on va chez un traditérapeute, même avec n'importe quel traitement de bon soin, la plaie finira toujours par guérir un jour.
Alors, Alors, docteur Kibati, pour prévenir cette maladie, vous dites qu'il faut l'hygiène, il faut renforcer l'hygiène de vie.
Oui. première chose, c'est qu'il faut améliorer les conditions d'hygiène. En fait, pour répondre aussi à la question de notre ami de Kananga,
oui.
En fait, dans plusieurs provinces du pays, ces mêmes maladies existent, mais ont des dénominations particulières. Mmh. Dénomination Basso, c'est une dénomination de Bandib ou de la province du Bas-Congo.
Oui.
Dans l'Équateur, il doit y avoir aussi une autre appellation, comme la province orientale, tout ça. C'est tout à fait naturel, puisque ce sont des dénominations liées aux langues locales.
Oui.
Naturel. Mais ce qui est important, c'est de poser un diagnostic, d'aller voir un médecin, et le médecin doit donner un traitement spécifique. Et quand
voilà.
On améliore les conditions de vie
oui.
De la population, par exemple les enfants qui, une fois qu'ils se blessent, se lavent les jambes, prennent ça beaucoup plus facilement, et qu'on améliore aussi les conditions de prise en charge dans nos centres de santé, c'est-à-dire un bon diagnostic et un traitement plus adapté, les problèmes n'existeraient pas.
Docteur Sébastien Napol, spécialiste en chirurgie plastique au clinique universitaire de Kinshasa, je vous remercie.
Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.